Chapitre 20. La route de Corbeil. Lydie, Richard, allons, paresseux, le dernier de la messe qui sonne. Cousine Élise, aux uselles depuis 2 jours, appelait et tourbillonnait sous les croisées du pavillon, pendant que la cloche de la petite paroisse éparpillait ses notes claires dans le silence du dimanche matin et que Madame Fénigan apparaissait au fond de la charmille, avec sa démarche majestueuse de grande bourgeoise, un paroissien doré d'une main, de l'autre son sac de soie tintambulant de clés et d'anneaux. « Et Richard ?» demanda la mère, voyant Lydie descendre seule, élégamment vêtue de noir, en contraste aux couleurs vives et voyantes du petit chaperon rouge. « Nous avons lu très tard, je n'ai pas osé le réveiller !» répondit la jeune femme, toute vermeille de son mensonge, et gagnant bien vite la chapelle en achevant de se ganter. Sans dormir précisément, Richard, étalé dans le grand lit, les paupières lourdes d'une lassitude délicieuse, se laissait bercer à fleur de sommeil au carillon de Saint-Irène, entrant par la fenêtre ouverte, avec le ruissellement de la fontaine au coin de la route et le cliquetis de son gobelet. Comment n'avait-il pas accompagné sa mère et sa femme à la messe? Sans doute la crainte d'être ridicule, l'ennui d'entrer là, de se montrer après tous ces événements. Et pourtant, dans cette humble église au bord du chemin, sa mère avait senti la grâce, la pitié humaine. Et c'est de là qu'elle était partie pour reprendre et ramener la fugitive. Oui, il lui devait de la reconnaissance à la petite paroisse, et bien qu'il en coûtât à son orgueil, sûrement qu'un de ses prochains dimanches... La cloche espaçait ses derniers coups. Dans l'embroussaillement du demi-sommeil, Richard entendit la voix éraillée de Chuchin, le garde-pêche, lui rappelant qu'ils avaient un coup d'épervier à donner vers l'île des Moineaux avant que le soleil fût trop monté. Il sauta du lit bien vite et, sur la porte, en s'en allant, se heurta à une vieille toute décrépite qui se sauvait en emportant une gerbe de fleurs superbe que venait de lui donner Rosine Chuchin. L'allure gênée, mystérieuse de cette grande fille l'intriguait depuis quelque temps. Il revint sur ses pas et demanda soupçonneux. « Qu'est-ce que c'est que cette femme ?»«
La mère Lucriot de Draveil. »
« Et ses fleurs, pourquoi faire ?» Rosine l'ignorait. Madame Richard avait commandé de remettre un bouquet à la Lucriot tous les matins, rien de plus. Richard n'en demanda pas davantage, trouvant plus digne de s'adresser à Lydie. Seulement, ils se sentirent devenus tout tristes. Au tournant de la route, il rencontra la sortie de la messe, souliers craquants et frôlements de soie. Dans le groupe des dames Fénigan, le petit chaperon rouge parlait avec agitation, secouant son ombrelle et ses rubans.
« Tout ce que vous voudrez, cousine, je n'aime pas prier pour des gens que je ne connais pas. Et puis, si j'avais su assister à une messe de mort, j'aurais mis une toilette moins voyante. Je serais venue en noir, comme Lydie. »
« Mais je n'étais pas avertie, » murmura Lydie, que le regard de son mari à sa robe sombre embarrassait. Richard demanda, « En l'honneur de qui l'office funèbre de ce matin ?»«
Personne ne le sait, pas même Monsieur Mérivet, » répondit Élise, tandis que Fénigan prenait sa femme à part, pour lui dire très bas, très vite.
« Et toi, le sais-tu ? » ?
Oui.
« Est-ce le même à qui tu envoies des fleurs ?» Elle eut un tressaut de surprise et résolument,
« Le même, oui, le père Georges. »
Et ce fut tout. Ils étaient si heureux depuis quelques jours. La vague qui les berçait remuait tant de soleil d'un mouvement si doux, chantait une si enivrante musique qu'elle avait craint de jeter dans ce plein bonheur sa piteuse et humiliante aventure. S'il allait ne plus l'aimer, fille de ces roulants, d'une race nomade et ennemie. Avant tout, elle redoutait l'explication avec sa belle-mère, bien changée pourtant, bien tendre et maternelle, mais d'un orgueil encore plus altier que celui de son fils. Et elle renvoyait à plus tard cette explication inévitable, comptant sur l'influence de l'abbé Cérès. Malheureusement, les paroles et l'air préoccupé de son mari l'avertissaient que son secret ne serait plus longtemps pour elle seule. Au lieu de descendre à la pêcherie, Richard continua tout droit sur la route. Son coup d'épervier ne l'intéressait plus.
Il pensait à cette messe, à ces fleurs, à ce deuil surtout, d'une démonstration vraiment excessive pour le vieux besacier. Non, c'était invraisemblable qu'il s'agît du père Georges. On n'y aurait pas mis tant de mystère. Alors qui ? L'autre ? Celui qui dormait au fond du parc de Grosbourg, dans l'orgueilleux mausolée de famille ? Serait-il possible qu'elle y pensât encore ? Pour s'en assurer, en tout cas, il n'avait qu'à entrer chez Lucrio, qui nichait à tas, passé Draveil, dans une ancienne guérite de cantonnier. Il interrogerait la vieille, et tandis que ses pas le traînaient presque inconsciemment de ce côté, la route autour de lui déroulait son train paisible du dimanche. Napoléon Mérivet, qui venait de fermer sa chapelle, le menaçait de loin avec la grosse clé. Et Richard furieux songeait en lui-même. Oh non, il n'y mettrait jamais les pieds dans cette église du pardon à tout prix où l'on priait pour ceux qui vous font du mal. Ensuite, c'était le salut obséquieux et félin de M. Alexandre qui passait, équipé, vêtu en chasseur de Robin des Bois, bien que la chasse ne fût pas encore ouverte. Il revenait de tirer des lapins toute la matinée dans les réserves de Grosbourg, et son carnier, son fusil, ses guêtres montantes, tout était neuf, luisait, craqué. Même le chien qui le suivait, peureusement blotti contre les houseaux de son maître, semblait après ses 5 heures de battue un chien de carton, frais sorti d'une boîte. « Bonne chasse, monsieur Alexandre !» criaient les filles de la ferme. La boulangère, penchée sous la bâche de sa voiture, demandait aussi en passant « Bonne chasse, monsieur Alexandre ?» À tous et à toutes, Alexandre répondait, le ton détaché, négligent, comme il avait entendu dire au château. « Non, je n'ai rien vu. » Le chien, non plus, n'avait rien vu. Mais ils avaient dû, son maître et lui, faire tant de fois la même réponse qu'une des filles du cantonnier, en train de servir le déjeuner de son père sur la brouette renversée, ayant jeté de loin « Bonne chasse, monsieur Alexandre ! Avez-vous quelque chose pour moi ?» Le vieux larbin se retourna comme si un aspic l'eût mordu et grinça d'un air galantin et enrangé. « Quelque chose pour toi, ma petite ? J'ai toujours quelque chose pour toi !» L'intonation était si amusante que Richard ne put s'empêcher de rire. Mais la rencontre qu'il faisait presque aussitôt le rejeta dans ses sombreurs et ses rongements. Au coin du raidillon qui descend vers le pont de Ris, une charrette pleine de meubles était arrêtée. Deux hommes, deux géants, s'activaient autour, serrant le frein, rajustant les cordes détendues, puis la voix de la femme saute-cœur commanda de l'avant. « Hue, Blanchette !» Et l'équipage s'ébranla lourdement, suivi par les deux hommes marchant l'un près de l'autre sans se parler. Richard, qui s'était écarté pour ne pas gêner les pauvres gens, les regarda s'éloigner sur la pente cahoteuse, secouant leurs hautes épaules de frissons pareils à des sanglots. À l'âge du vieux garde, quel arrachement que ce départ! Sa forêt, son ermitage, toute sa vie rasée, brûlée, et pour un caprice de gamin. Il est vrai que le petit misérable avait payé cher sa fantaisie. Si jeune, un grand nom, le plus riche majorat de France, c'était pitié qu'une destinée pareille. Et l'attendrissement de Lydie, ses bouquets, ses prières, n'avaient rien de coupable en somme. Cela valait-il l'enquête dégradante qu'il allait tenter chez ses Lucrio, à même la calomnie et les loques ? D'autant que le petit cimetière était proche et qu'en cherchant la tombe du père Georges, il saurait aussi bien si sa femme lui avait menti. Comme il se hâtait dans cette direction, l'Orphéon de Draveil, qui faisait sa promenade du dimanche, passa près de lui, bannière en tête. Sur 4 rangs serrés, il s'en allait en pleine campagne, soufflant dans le cuivre des trompettes avec leurs bonnes joues villageoises, rases et noiraudes, que dorait le galon des casquettes, marquant le pas d'un rythme héroïque qui faisait se lever des volées de perdrix dans les javelles. Déjà Richard voyait au-delà d'un grand mur, à l'entrée du village, pointer les ifs et les tombes blanches, quand, repris de ses incertitudes, il s'assit au bord du chemin sur un banc de pierre. Eh bien non, décidément, cette recherche avait quelque chose de trop misérable après sa réconciliation avec Lydie. Il ne s'y abaisserait pas. Pourquoi ne pas dire à sa femme simplement « Je me croyais guéri, je ne le suis pas. Je croyais tout fini avec la mort et me voici jaloux de la mort même. Je t'en prie, puisque cette pitié posthume dont ton cœur me déchire, renonce-y, je suis trop malheureux. » En songeant ainsi, il s'apaisait, se détendait, et peu à peu, de ce grand repos du dimanche qui l'entourait, de ces ombres immobiles, de ces plaines immenses et désertes, champs de colza et de blé noir, dont la houle argentée et jaune d'or se mouvait jusqu'à la lisière des bois, lui venait une douceur rafraîchissante, comme un blessé qu'on ferait boire après l'avoir défublé de sa cuirasse aux dures attaches. Combien de temps resta-t-il à cette même place ? La fanfare de l'Orphéon avait passé et repassé, étalant au soleil ses cuivres et ses médailles. Puis le troupeau de la ferme, quelques routiers, le facteur. « Chiffons, ferrailles à vendre !» Et son cri mélancolique, le petit bossu marchand de chaussures, toutes les figures du jeu de loi. Soudain, l'Angélus sonna dans 20 petits clochers se répondant l'un à l'autre. Les cloches du déjeuner vibrèrent en écho dans les cours des châteaux et des villas. Et seulement alors, en se relevant, Richard s'aperçut qu'il était assis sur le soubassement d'une haute croix de fer, commémorant la place où l'apoplexie avait foudroyé l'ancien notaire de Draveil, maître Fenningan. Un souvenir, plus superstitieux que tendre, lui évoqua l'image lointaine, atténuée, de ce père qu'il avait peu connu. Est-ce de lui qu'il tenait cette brûlure intérieure, l'affreux mal de jalousie entré dans sa chair et son sang ? Était-ce héréditaire chez les Fenningan comme l'orgueil, un de ces legs mystérieux que les testaments ne mentionnent pas ? Ah, père, père ! Soupirait le pauvre Poum-Poum, revenant chez lui avec le chantonnement des mauvais jours. Moins de moulins, de futaies, de prairies, et pas cette horrible blessure dont je sens bien que je ne guérirai jamais complètement. Jusqu'au soir, un malaise pesa sur les uselles, malgré les cris de joie du petit chaperon rouge. Accourue sitôt la catastrophe, la brave fille s'était précipitée chez le juge d'instruction, et Richard lui devait sa prompte levée d'écrou. À Draveil, à Soisy, on n'avait pas manqué de dire « Ces Fenningan sont si riches, pas de danger que la justice les lambine, ceux-là. » En réalité, Delcroux se sentait en faute avec ses amis. N'importe, l'amour aidant et une forte dose d'impudence, il avait annoncé sa visite pour ce dimanche soir. Et vous pensez si elle fut commentée à l'office et chez les Cléments ? Quant à Rosine Chuchin, cause de tout le drame avec sa lettre anonyme, lorsqu'elle entendit à la nuit le timbre de l'entrée, elle courut s'enfermer dans l'isba et n'en bougea plus. Au salon, ouvert sur le silence odorant du parc, l'homme aux durs favoris noirs trouva pour chacun le mot qui convenait. Ses dents de loup étincelaient devant les chairs satinées et replètes du petit chaperon, et pendant qu'il suppliait Lydie de se mettre au piano, il faisait lire à Richard et à sa mère un article dithyrambique en faveur des Fenningan, paru le matin en tête du journal de Corbeil. Signé Vérax, cet article avait des rondouillements de phrases flasques et vides, à grands gestes et à grandes manches, dont il était facile de deviner l'auteur. Le même numéro contenait malheureusement les lignes suivantes. Ce matin, dimanche, dans la petite chapelle de Grosbourg, ainsi que dans les principales églises du territoire, Draveil, Soisy, Ris, Athis, Morangis, une messe a été célébrée pour le repos de l'âme du prince d'Olmutz. Au sortir de l'office, le duc et la duchesse d'Alcantara, très malades tous les deux, sont partis pour Langadine avec le docteur Jean Metzer. Richard, les yeux longtemps sur cet entrefilé, comme s'il l'épelait ou le traduisait, s'approcha du piano et posa sur le pupitre devant Lydie le journal plié, sabré d'un coup d'ongle. « À présent, je suis renseigné. Voilà celui pour qui tu priais ce matin, » dit-il à voix basse. « Les fleurs pour lui aussi, probablement. » Elle leva ses beaux yeux angoissés. « Oh, Richard !» Sans cesser de jouer, ses larmes tombant à larges gouttes sur les touches et ses longues mains blanches ralenties. Puis, d'un geste emporté, « Tu vas tout savoir, viens » dit-elle en se levant. « Où allez-vous, les enfants ?» cria la mère, surprise. Mais déjà, ils avaient quitté le salon. À l'heure de la messe, le dimanche suivant, Napoléon Mérivée, chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire, debout au seuil de son église dont il faisait les honneurs gradués et mesurés à tout venant, eut la surprise et la joie de voir arriver Richard Fénigan avec sa femme à son bras, sa chère petite Mendelssohn, tout en bleu comme la sainte du vitrail. Pendant qu'ils entraient, des ramiers battaient de l'aile en tourbillonnant autour du clocher, et le bon vieux, souriant et doux, s'inclinait un peu plus cette fois, avec un geste de tendre et satisfaite bienvenue.